une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les ajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA à la SPJC. Je dis foncé, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'économie en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de prothèses auditives, de sélection adverse et d'Olivier Véran. Si vous avez récemment changé de lunettes, votre opticien a sûrement commencé par vous demander quelle mutuelle vous avez. Eh oui, vous ne payez pas le coût intégral des verres ni de la monture, c'est la sécurité sociale qui en prend une petite partie, et votre assurance complémentaire qui, comme son nom l'indique, complète. Votre opticien peut donc vous dire ce que votre mutuelle peut payer, ce qui vous permettra de vous offrir une jolie paire de lunettes, ou pas. Il se peut que vous préfériez une monture plus chère que les remboursements auxquels vous avez le droit. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle un reste à charge, que vous payez donc de votre poche. Attendez, dans cet exemple, je vous ai dit que la sécurité sociale prenait une petite partie du coût. Combien exactement? Pour un adulte, la monture est prise en charge à 60% sur une base de 2,84€. Et pour les verres, c'est aussi 60% sur une base maximum de 24,54€. Autant dire que sans mutuelle, vous ne pouvez pas vous payer de lunettes. C'est quand même dommage, ça. Les consultations médicales chez un généraliste sont bien prises en charge par la Sécu, et même les passages aux urgences. Mais les lunettes, les soins dentaires ou les prothèses auditives, tout ça doit être payé par une assurance complémentaire, sinon ça coûte très cher à celles et ceux qui en ont besoin. Et on ne peut pas dire qu'ils les choisissent.
Peut-on se débarrasser des mutuelles ?
Il faut préciser le vocabulaire. Je vous ai parlé à la fois de complémentaire santé, d'assurance et de mutuelle. Pour y voir plus clair, je donne la parole à Philippe Batifoulier, professeur d'économie de la santé à Paris 13.
En fait, les mutuelles sont une catégorie des assurances santé complémentaires. Sur les trois catégories, il y a les sociétés d'assurance à but lucratif, comme AXA par exemple. Et puis, il y a les instituts de prévoyance et les mutuelles, c'est une catégorie. Tout ça, c'est rangé dans la famille des ce qu'on appelle en France les assureurs complémentaires. Parce qu'en France, et c'est un point important, l'assurance santé privée, elle est complémentaire. Elle n'est pas supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous allez chez les médecins, que ça coûte 25€, la sécurité sociale, elle en rembourse que 70%. Si vous n'avez pas d'assurance complémentaire, ben, vous payez un peu plus de 6€ de votre poche. Et donc, c'est pour ça que le côté complémentaire de l'affaire rend les choses extrêmement importantes. Parce que ce n'est pas uniquement de la chambre seule à l'hôpital où on va devoir la télécommande pour avoir la télé quand on est hospitalisé. Hein. C'est une dépense contrainte, la mutuelle, quand on peut se la payer. Alors, il est vrai, donc, les mutuelles, c'est qu'une catégorie des assurances complémentaires, mais les gens, dans le langage courant, ils disent mutuelle. Ils disent mutuelle parce que c'est plus simple à dire, parce que c'est quelque chose qui est clair.
Historiquement, les compagnies d'assurance privée et les mutuelles, ce n'est pas du tout la même chose. Les premières sont constituées comme des entreprises privées qui cherchent à faire du profit en vous offrant un service dont le prix est calculé pour être inférieur à son coût. Une bonne compagnie d'assurance, c'est une entreprise dont les clients ont peu d'accidents. Ainsi, elle encaisse des primes et elle ne leur paye pas grand-chose en retour. Ça marche pour les assurances automobiles, pour l'assurance habitation. Bref, le business d'une compagnie d'assurance, c'est de calculer au plus juste ce que ses clients prennent comme risque et de leur faire payer cher lorsqu'ils en prennent beaucoup. À l'inverse, une mutuelle, c'est une association de travailleurs à l'origine. À la fin de la révolution industrielle, quand la classe ouvrière devient nombreuse et travaille dans des conditions difficiles, les accidents du travail sont nombreux, mais les employeurs ne payent rien aux victimes ni à leurs familles. C'est dans ce contexte qu'on voit se développer des sociétés de secours mutuels, qui se proposent de mettre en commun les maigres ressources des travailleurs pour venir en aide à celles et ceux qui sont victimes d'un accident, d'une maladie ou qui sont trop vieux pour travailler. Pas question de n'assurer que des jeunes bien portants. Au contraire, l'idée est plutôt de faire preuve de solidarité. D'ailleurs, dans d'autres pays que la France, ce sont les organisations syndicales qui ont développé des mutuelles, au point qu'il fallait prendre sa carte à un syndicat pour pouvoir bénéficier de cette solidarité. Pas grand-chose à voir avec une société qui doit verser des dividendes à ses actionnaires, donc. Mais ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. À l'heure actuelle, si vous êtes assuré par la MAIF, MMA ou la MASSIF, Vous avez en face de vous une grande organisation qui vous rend des services que vous payez chaque mois. Et dans la grande majorité des cas, vous ne connaissez pas son fonctionnement et vous n'y participez guère.
Avec son réseau de soins et ses services, ma mutuelle prend, elle aussi, soin de ma santé et de mon budget.
Autant dire que ça pourrait être une compagnie d'assurance privée, ce serait presque la même expérience. D'ailleurs, la frontière est assez mince entre les deux, comme le dit Philippe Batifoulier.
Et aujourd'hui, il y a très peu de différences au niveau de la réalité. Il y a toujours une différence au niveau du discours. Alors que les mutuelles revendiquent d'être des membres de l'économie sociale et solidaire, avec les principes de cette économie sociale et solidaire, notamment le côté qu'il y a des sociétaires qui peuvent voter, une sorte de démocratie représentative. Et il faut le dire quand même, pour être tout à fait clair, il y a des... Au sein des mutuelles, il y a des gens, il y a des militants qui portent le côté un peu économie sociale et solidaire. Mais au niveau de la gestion, ceux qui gèrent ça, en fait, ils agissent sur un marché et ils sont obligés de se conformer au marché.
Ça, c'est le cœur de notre problème d'aujourd'hui. Comment se fait-il que les mutuelles soient devenues semblables à des assurances privées et pourquoi ça coûte trop cher à leurs assurés? Si vous avez bien suivi ce que dit Philippe Batifoulier, les mutuelles sont sur un marché où elles sont en concurrence avec d'autres entreprises. L'objectif de cette ouverture à la concurrence, sous l'égide de la Commission européenne, c'était d'offrir aux consommateurs le choix entre plusieurs solutions pour s'assurer. En théorie, ça devait faire baisser les prix, surtout si les services offerts par une assurance ou une autre sont à peu près les mêmes. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
Qui a autorisé? C'est d'abord la législation européenne, en vertu du grand dogme de la concurrence libre et non faussée. Donc, on a décidé que les activités d'assurance privée relevaient de la concurrence, et donc il ne devait pas y avoir des barrières à la concurrence. Donc, aucune protection pour l'identité mutualiste. Mais il n'y a pas que l'Europe, parce que l'Europe a toujours bon dos. Il y a aussi le législateur français, qui, dans les années 80, a fait le choix de la concurrence contre le monopole de la mutualité. Si bien qu'on a totalement libéralisé le marché. Alors, les mutuelles, elles n'ont pas pris ça comme quelque chose qui s'imposait à elles. Elles ont joué le jeu.
Donc, les mutuelles se retrouvent en concurrence avec des entreprises d'assurance qui cherchent à faire du profit. Et la seule manière d'en faire dans ce domaine, c'est d'éviter un phénomène qu'on appelle en microéconomie la sélection adverse. Je vous explique avec un exemple fictif. Imaginez, vous offrez un contrat qui rembourse des soins médicaux contre une prime fixe chaque mois, quelle que soit la personne assurée. Bien sûr, le contrat est plus avantageux si vous avez un cancer en phase terminale, qui va être largement remboursé plus que le montant de la prime. Il est au contraire trop cher pour des jeunes gens bien portants qui ne vont jamais voir un médecin. Donc, les seuls clients que vous finissez par avoir, ce sont celles et ceux qui vous coûtent le plus cher. Pour éviter cela, les compagnies d'assurance prennent soin de calculer le plus finement possible les risques associés à leurs clients, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence, mais aussi de leur pratique de consommation au sens large. C'est du boulot de récolter toutes ces informations et de faire les calculs nécessaires pour ajuster les tarifs de chaque client. Mais si vous faites bien ce travail, vous pouvez effectivement assurer des millions de personnes en prenant soin de diversifier les risques auxquels celles-ci sont exposées. Une compagnie d'assurance privée va donc chercher à capter des clients bien portants. Que reste-t-il pour les mutuelles? Des assurés qui leur coûtent cher, parce qu'ils sont malades, ou vieux, ou les deux à la fois.
Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard.
Philippe Batifoulier.
Pour le patient, a priori, c'est pas un problème. Il a qu'à se dire, quand je suis jeune et que je suis en bonne santé, je vais voir l'assurance privée. Et quand je serai vieux, j'irai voir la mutuelle qui, elle, reste solidaire. Sauf que les mutualistes, vis-à-vis de ce type de marché, ils vont assurer que les mauvais risques, ils vont assurer que les personnes âgées. Et donc, ils se sont dit, mais on se fait avoir. Donc, on veut aussi du jeune. Nous aussi, on veut du jeune. On veut des gens qui sont bien portants. Sinon, on n'est absolument pas rentable. Et donc, ils ont commencé à faire exactement comme les autres. Et aujourd'hui, il y a un standard de marché. Le marché, il ne vit pas sur la concurrence. Il vit sur un standard où on pratique exactement les mêmes règles de l'assurance santé. On fait payer en fonction de l'âge. Parfois du lieu de résidence, parfois des charges de famille, parfois ceci, mais surtout en fonction de l'âge. Et donc, c'est institué des règles de concurrence qui sont uniformes. Et puisque les règles de concurrence sont totalement uniformes...
C'est pour cette raison qu'entre les mutuelles et les autres complémentaires santé, il n'y a plus beaucoup de différence de nos jours. Tout le monde fait les mêmes calculs, cherche la même clientèle et offre grosso modo les mêmes prestations. Mais pour gagner en solidité financière, surtout si elles veulent continuer à assurer des malades chroniques et des personnes âgées, tous ces organismes ont intérêt à avoir le plus de clients possible. Ça pousse non pas à la concurrence, mais à la concentration de ces entreprises qui fusionnent les unes avec les autres.
Et puis on assiste aujourd'hui à un vaste mouvement de fusion, acquisition, concentration, qui fait que les mutuelles se sont d'abord alliées entre elles, formant des grands groupes, et puis les mutuelles maintenant, y compris les grandes mutuelles de la fonction publique, elles s'allient avec des banques pour former des grands groupes où on a noyé totalement l'identité mutualiste. C'est ça qui fait que l'identité mutualiste a totalement disparu. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des gens, des militants des mutuelles qui, eux, croient à l'identité mutualiste. Et la réalité fait que, les mutuelles, elles sont gérées par des gens qui ont fait HEC ou l'ESSEC, et qui appliquent les mêmes critères. Le calcul actuariel, voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la défense des mutuelles, à mon avis, c'est un combat qui est perdu.
Au passage, ce mouvement de concentration et de recherche de nouveaux clients explique aussi pourquoi les frais de gestion sont élevés, de l'ordre de 7,5 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes.
Ça tient à la concurrence. C'est aussi simple que ça. La concurrence coûte cher. Parce que la sécurité sociale n'a pas besoin de recourir à des actuaires, de faire du marketing, de faire de la publicité, de lutter contre ses concurrents. Alors que toutes les assurances privées, mutuelles y compris, vont dépenser une fortune pour montrer que c'est les meilleurs. C'est pas la sécurité sociale, elle distribue pas les prospectus dans les boîtes aux lettres pour dire assurez-vous à la sécurité sociale. Mais les mutuelles le font. Ils font de la publicité, ils dépensent beaucoup de choses, donc ça coûte très très cher.
Si on suit ce raisonnement, la solution paraît assez simple. On confie tout ce que les mutuelles font à la sécurité sociale. Et figurez-vous que ce n'est pas seulement une idée marquée à gauche. En novembre dernier, par exemple, on trouvait dans Les Échos une tribune intitulée « Supprimons les mutuelles de santé ». Tribune signée de Jean-Charles Simon, économiste et ancien candidat à la présidence du MEDEF.
La fille. L'amour. La vie. Le MEDEF.
Étendre le domaine de la sécurité sociale et inventer une grande sécu qui prendrait en charge les soins de la même manière que les affections de longue durée. À 100% donc. C'est d'ailleurs l'un des scénarios évoqués par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, dans un rapport récent. Et c'est une idée qui plaît beaucoup à Olivier Véran, par exemple. Le débat n'est pas encore tranché, cependant on voit que du côté de l'option grande sécu, on trouve des gens très différents, mais qui s'accordent sur un point. Si la sécu remboursait tous nos soins, même les soins dentaires, les prothèses auditives et les lunettes, mieux que maintenant, elle le ferait selon sa logique habituelle. Tout le monde cotise, et tout le monde reçoit des prestations égales. Et donc, au total, ça coûterait sans doute bien moins cher aux assurés, et ce serait moins inégal. À l'heure actuelle, il y a environ 4 millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé en France. À l'inverse, les plus riches peuvent par définition se payer davantage de soins, y compris des dépassements de forfait par rapport aux tarifs de la sécurité sociale, qui sont nombreux dans certaines spécialités.
Là, même de mémoire, les complémentaires, elles dépensent 7,5 milliards d'euros aux frais de gestion, soit un peu plus que la sécurité sociale, qui, elle, dépense 7,3. Sauf que ce n'est pas le même volume. On ne couvre pas la même chose avec ça. La sécurité sociale, avec moins de frais de gestion, en euros, elle couvre 158 milliards d'euros de prestations.
Bien sûr, confier l'ensemble des remboursements de soins à la sécurité sociale, ça suppose de définir à quel tarif on rembourse. Du reste, c'est déjà le cas de nos jours. Et ça n'empêche pas les dépassements d'honoraires ni les restes à charge. Même si, depuis 2020, on a commencé à mettre en œuvre une mesure de reste à charge zéro qui pousse les complémentaires santé à mieux prendre en charge les soins qui coûtent cher, comme les prothèses auditives. Alors attention à ce qu'on met derrière les termes « remboursé à 100 %, comme le dit Philippe Batifoulier.
Les études et l'expérience ont bien montré que le système de 100 % actuel en France, ça ne marche pas bien. Parce que 100 %, c'est toujours 100 % du tarif de la sécu. Or, le prix que paye le patient pour certains soins ou services n'a plus rien à voir avec le prix de la sécu. Tout le monde sait, ceux qui ont des lunettes savent que le tarif de la sécu, il est ridicule. Les prothèses auditives, c'est pire. Le dentaire, c'est pire. Donc, rembourser à 100 %, c'est rembourser des clopinettes dans certains cas. Les dépassements d'honoraires, par définition, ils sont au-dessus du tarif de la sécu. Donc, si vous faites du 100 %, vous ne remboursez pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les gens qui sont en ALD, donc qui sont couverts à 100 %, ont les plus forts restes à charge. ils ont les plus forts restes à charge. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des dépenses au-delà de leur maladie exonérante. Et parce qu'ils sont malades. Et que plus on est malade, plus on paye. Et donc, il faut bien s'entendre sur ce que veut dire grande sécu. Donc, il est indéniable que élargir le terrain de la sécurité sociale, le périmètre d'action de la sécurité sociale, c'est une avancée.
Si on laisse aux médecins la possibilité de surfacturer leurs consultations et leurs soins au-delà du tarif de la sécu, eh bien certains et certaines d'entre eux le feront, comme ils le font déjà. La solution n'est sans doute pas que la sécu rembourse tout, quel que soit le tarif, sauf si on veut accroître de 2 ou 300% les revenus des médecins spécialistes. Donc, si l'on veut aller jusqu'au bout de ces mesures pour réduire les inégalités et contenir la progression des coûts de la santé, il faudrait contraindre un peu plus les médecins à fournir un service public. Je n'en lis pas plus parce que ce serait l'objet d'un autre épisode. Comment faire en sorte que les médecins n'augmentent pas trop le prix de leurs services ? Il est temps de conclure. Est-ce qu'on peut se passer des mutuelles ? À l'heure actuelle, non. Et c'est bien le problème. Une complémentaire santé, quelle qu'elle soit, c'est absolument nécessaire pour ne pas payer de sa poche les soins les plus coûteux, surtout quand on commence à vieillir. On pourrait donc les priver d'une bonne partie de leur activité en la confiant à la sécurité sociale. Certes, ça enterrerait les mutuelles à l'ancienne. Et ça ne laisserait plus subsister que des assurances privées pour riches. Mais ce serait moins cher pour la grande majorité de la population, plus équitable et économique, y compris d'un point de vue de pure efficacité de la dépense de santé. À terme, et pour prolonger ce travail, il faut discuter de la fixation des prix. Non seulement la tarification des activités dans les hôpitaux, par exemple, qui donne lieu à beaucoup d'effets pervers, mais aussi les dépassements d'honoraires des médecins, et même leur liberté d'installation qui devrait pouvoir être remise en cause. Et ça, ce sera pour un autre épisode. Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est présentée et écrite par moi, Emmanuel Martin. Production et réalisation, Marine Rowe. Mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Coordination par Mathilde Jeunin.